Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. On est ensemble jusqu'à 9h, temps universel. Et dans 30 minutes, nous dresserons ensemble le profil du futur pape. C'est aujourd'hui que débute le conclave devant désigner un successeur à François. Les cardinaux électeurs se réunissent cet après-midi à 14h30, temps universel, dans la chapelle Sixtine. Et ils resteront coupés du monde jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit élu pape. Le nouveau souverain pontife devra-t-il, selon vous, s'inscrire dans la continuité de François ou au contraire, espérez-vous un pape plus conservateur? Quel défi devra-t-il relever en priorité? Sera-t-il africain? Je vous ai posé la question sur notre chaîne RFI WhatsApp, RFI Appel sur l'actualité. Pensez-vous que l'Église catholique est prête à élire un pape africain? Le oui arrive largement en tête avec 60% des votants. Le vote continue évidemment. Évidemment, vous pouvez vous exprimer sur la chaîne RFI WhatsApp, appel sur l'actualité. Dans 30 minutes, donc, notre débat du jour. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié pour mieux comprendre l'actualité. Ce sont vos questions. Bonjour Bernardin.
Bonjour Juan.
Bah, Bukavu, en République démocratique du Congo, nous vous écoutons.
Oui Juan, j'ai entendu sur RFI que Kigali et Washington sont en négociation concernant l'accueil des migrants en provenance des États-Unis. Mmh. Alors, une question, je voulais savoir quel est l'intérêt du Rwanda à les accueillir, surtout qu'ils sont expulsés des États-Unis, et aussi comment la population rwandaise perçoit cet accord migratoire.
Ah oui, après avoir conclu un accord avec le Royaume-Uni qui a finalement été abandonné, eh bien le Rwanda est désormais en discussion avec l'administration Trump pour accueillir sur son sol des migrants expulsés des États-Unis. Bonjour Lucie Mouillot.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Kigali. Pour l'instant, Lucie, on ne sait pas grand-chose sur le contenu des discussions entre Washington et Kigali.
Et oui, effectivement, aucun détail sur ce potentiel accord n'a été partagé, ni sur les conditions d'envoi de ces migrants, ni sur de potentielles contreparties offertes par Washington à Kigali pour accueillir ces personnes refoulées donc du territoire américain. Le ministre des Affaires étrangères rwandais affirme que les discussions sont à un stade préliminaire et qu'il est donc trop tôt pour donner des précisions sur les négociations en cours. Mais si on prend l'exemple un projet similaire signé avec le Royaume-Uni, finalement abandonné l'année dernière par le nouveau gouvernement britannique, un accord financier avait été conclu entre les deux pays. Entre 2022 et 2024, Londres avait déboursé près de 300 millions d'euros, et ce sans qu'un seul migrant ne soit envoyé sur le territoire rwandais. Cet argent devait servir évidemment à la prise en charge des arrivants, mais aussi à aider le développement économique du pays. Kigali n'a d'ailleurs pas eu besoin de le rembourser après l'abandon du projet.
En tout cas, c'est une manière pour le Rwanda de peser sur le plan diplomatique, le fait d'avoir des discussions en ce moment avec l'administration Trump.
Effectivement, de peser, de créer une relation privilégiée avec l'administration du président Donald Trump en l'aidant à remplir ses objectifs en termes de lutte contre l'immigration, l'un des piliers de son programme. À noter également que Washington est depuis quelques semaines l'initiateur de négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette semaine, l'envoyé spécial américain pour l'Afrique, Massad Boulos, a reçu des contributions à la fois de Kinshasa et de Kigali pour un avant-projet d'accord de paix. Des accords économiques entre les États-Unis et les deux pays sont également en discussion. Alors, le chef de la diplomatie rwandaise affirme cependant que les négociations sur l'accueil de migrants sont strictement bilatérales. Elles ne seraient pas liées, selon lui, au processus de paix engagé par Washington dans la région.
Et Bernardin nous demande comment la population rwandaise perçoit-elle ce potentiel accord migratoire.
Alors, il faut d'abord rappeler que le Rwanda accueille depuis des décennies des réfugiés sur son territoire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le pays a toujours voulu se placer en terre d'asile. Plus de 80 000 réfugiés congolais et 50 000 Burundais sont installés dans différents camps dans le pays et pour certains depuis de très nombreuses années. Le centre de Gachora, ouvert en 2019, héberge également des réfugiés évacués de Libye dans l'attente de leur transit vers d'autres pays d'accueil. Très peu de critiques s'étaient élevées à l'époque de l'accord avec le Royaume-Uni. Seuls certains opposants s'étaient prononcés, notamment Franck Habineza du Parti Vert. Pour l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Londres se dégageait de ses engagements sur le droit d'asile en reléguant le poids de l'accueil à un pays en développement comme le Rwanda. Et concernant le potentiel accord avec les États-Unis, très peu de réactions pour l'instant. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, les conditions de cet accord n'ont pas encore été divulguées.
À suivre donc. Bernardin, a-t-on répondu à vos questions ?
Ouais, merci beaucoup.
On remercie Lucie Mouillot, surtout correspondante de RFI à Kigali. Vos explications sont d'ailleurs à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. 10h16 à Paris. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour.
Spécialiste des questions de défense et de sécurité à RFI, on a des questions sur la guerre en Ukraine. Taoufik, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour.
À Lomé, au Togo, nous vous écoutons.
Ça va. Et j'ai juste quelques deux préoccupations sur l'Ukraine.
Oui.
L'Ukraine cherche en ce moment à obtenir de nouveaux systèmes de défense antiaérienne Patriot. Alors ma première question est de savoir, quel est l'intérêt pour les États-Unis d'envoyer des systèmes de défense antiaérienne Patriot alors qu'ils sont au cœur des négociations pour un arrêt définitif de la guerre?
Ouais. Bonne question. Ça peut vous sembler contradictoire, effectivement, Taoufik. Franck Alexandre, c'est une information du New York Times. Kiev devrait recevoir un nouveau système américain de défense antiaérienne.
Oui, l'Ukraine disposait en avril de 7 systèmes Patriot pleinement opérationnels. Donc un nouveau système américain devrait arriver. Un deuxième pourrait également suivre. Alors, il faut préciser, Taoufik, que l'arrivée de ces armes avait été décidée par Joe Biden en septembre dernier. Et depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le département de la Défense a choisi de ne pas revenir sur les accords de livraison d'armes actés lors de la précédente mandature. Voilà, après des propos très durs, côté américain à l'égard de Kiev, il est à noter une forme d'inflexion, en fait, Juan. Les États-Unis et l'Ukraine pourraient se diriger vers un adoucissement de leurs relations. Et il est possible que la signature de l'accord sur les minerais entre les deux pays ait été un puissant levier pour mettre de l'huile dans les rouages dans cette relation très transactionnelle, finalement.
En tout cas, dans cet accord, à aucun moment, il n'est question de livraison d'armement américain vers l'Ukraine. En tout cas, c'est ce que disent officiellement les autorités à Washington et à Kiev. Taoufik, on vous écoute pour votre deuxième question.
J'ai une seconde préoccupation. Si l'Ukraine venait à bénéficier de plus de systèmes de défense antiaérienne, est-ce que cela lui permettrait d'avoir un gros avantage sur le terrain de la guerre ?
Alors, les défenses...
Il ne fait que d'innocentes victimes jusqu'à ce jour.
Ouais, ce système de défense antiaérienne, Franck Alexandre, pour tous nos éditeurs, pour qu'on sache concrètement de quoi nous parlons, c'est ce qui permet à l'Ukraine d'abattre des missiles balistiques russes.
Balistiques et des bombes planantes. Ouais. L'Ukraine tire essentiellement des bombes planantes parce qu'elles coûtent moins cher. Elles sont tirées par les avions à distance et vont atteindre leurs cibles. Et les Russes ciblent les villes ukrainiennes. Ils ciblent les civils ukrainiens et non pas la ligne de front. Donc, ça ne changera pas les rapports de force sur le terrain, ça permettra aux Ukrainiens de ne plus subir ces attaques qui frappent directement la population civile.
Pour se protéger des frappes russes, les Ukrainiens, en tout cas, peuvent également compter sur leurs drones. C'est un domaine dans lequel ils ne cessent d'innover et ils l'ont encore prouvé pas plus tard que la semaine dernière en abattant des avions de chasse russes grâce justement à leurs drones.
Oui. Et un drone naval, Juan. Et ça, c'est une première dans la guerre navale. Il faut bien comprendre que les Ukrainiens font tout pour repousser les avions de chasse russes le plus loin possible pour éviter qu'ils, justement, lancent ces fameuses bombes planantes sur leur territoire. Et là, on a vu des drones sur l'eau tirer des missiles, c'était vendredi dernier, des missiles antiaériens, qui d'habitude, on les retrouve, ces missiles, sous les ailes des avions. Eh bien, ils ont été tirés fait depuis un drone naval, un Maruva 7. Vous savez, ces drones qui sont traditionnellement utilisés pour aller percuter des navires adverses et les détruire ainsi. Et là, ils ont monté donc ces petits systèmes anti-aériens sur ces drones navals. Et ils avaient déjà, en décembre dernier, ils étaient parvenus à abattre 2 hélicoptères. Là, l'exploit est quand même nettement plus notable, puisque ce sont des Sukhoi 30 qui ont été descendus. Et c'est un véritable exploit technique. Et ça remet... c'est un véritable bouleversement, puisque ça remet en cause les tactiques navales. Ils ont prouvé, les Ukrainiens, qu'avec finalement très peu d'argent, quelques milliers de dollars, on pouvait droniser une embarcation, monter sur cette embarcation des systèmes anti-aériens et créer en pleine mer ainsi ce qu'on appelle des bulles de déni d'accès, donc des interdictions aériennes en pleine mer avec peu de moyens, nous, pour le faire.
Pas besoin de frégate, alors.
Eh ben exactement ça. Nous, pour faire la même chose, on déploie des frégates qui font 130 mètres de long, qui coûtent des centaines de millions d'euros, qui sont ultra perfectionnées. Mais voilà, une nation sans marine est parvenue à cet exploit-là.
Taoufik, a-t-on répondu à vos questions?
Oui. Oui, ça peut aller. Espérons que le peuple ukrainien soit épargné.
Merci Taoufik, en tout cas, de votre fidélité, de vos encouragements. À très vite, Franck Alexandre, journaliste, spécialiste des questions de défense et de sécurité à RFI. On va parler de ces armes qui circulent dans le Sahel. Crabruno nous écoute à San Pedro, c'est en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est sa première participation d'ailleurs, c'est ce que je vois sur ma petite fiche. Bonjour Crabruno.
Bonjour Monsieur Juan.
Soyez le bienvenu sur RFI, nous vous écoutons.
Merci, d'accord. J'ai lu sur le site de RFI qu'un rapport du conflit armement russe, en abrégé K, avait étudié l'origine des armes utilisées par les groupes djihadistes au Sahel. Mm-hmm. Alors, M. Rouen, j'ai deux questions. La première, comment a été réalisée cette enquête?
Ah, effectivement. Comment une telle enquête a pu être réalisée? Bonjour Léo Jarry.
Bonjour.
Vous êtes justement l'enquêteur principal à l'ONG Conflict Armament Research. Vous avez enquêté pour savoir d'où proviennent les armes utilisées par les deux groupes djihadistes les plus influents du Sahel, à savoir le JNIM et l'État islamique au Sahel. Comment avez-vous travaillé?
Merci beaucoup pour votre question. Eh bien écoutez, nos équipes ont été déployées dans la région depuis 10 ans maintenant auprès des forces armées de sécurité. Et donc les données que nous collectons le sont dans le cadre d'un partenariat avec les différents pays dans lesquels nous intervenons, et nous intervenons dans ces pays à leur profit, au profit de leurs autorités. Et donc c'est dans le cadre de missions avec les services de police, les services judiciaires, les forces armées, etc., de travail sur le terrain que nous avons pu avoir accès à ce matériel. Et de manière beaucoup plus concrète, eh bien, nous profilons, c'est-à-dire nous prenons des photographies de chacune des armes qui est mentionnée dans ce rapport pour pouvoir ensuite en procéder à l'enquête.
Et ce sont des armes qui ont été récupérées par les armées nationales des pays en question?
Tout à fait, tout à fait. Chacune des armes dans ce rapport a été en effet saisie dans le cadre d'opérations, d'enquêtes antiterroristes, et dont nous avons l'assurance qu'elles ont bien été le produit, si j'ose dire, d'opérations strictement contre les groupes djihadistes. Et donc c'est ce qui nous a permis d'avoir cet échantillon extrêmement précis.
Ouais. Et de quel type d'armes parle-t-on en ce moment-là, nous deux? On parle
Alors,
de quoi
de
fusils de combat ou de matériel bien plus sophistiqué?
Non, nous parlons en grande majorité donc de fusils d'assaut, parfois de lance-roquettes type RPG, etc. Ce sont des armes qui constituent la très grande majorité de l'arsenal de ces groupes djihadistes. Vous avez aussi quelques mitrailleuses de légère à lourde, dont une grande partie provient de détournements et de captures sur le champ de bataille. De détournement donc des stocks nationaux lors de conflits, lors de combats.
Ouais. Léo Jarry, Bruno Gras, une autre question à vous poser.
Justement, la deuxième, elle rejoint en quelque sorte la première. Mm-hmm. Comment expliquer que la plupart des matériels de combat utilisés proviennent finalement directement de la région?
Ouais, 20% des armes que vous avez pu analyser, Léo Jarry, proviennent des armées nationales de la région du Sahel.
Alors oui, tout à fait, c'est un minimum. Nous avons utilisé une méthodologie particulièrement conservatrice. Nous parlons de 20%, il faut noter deux choses. Donc, d'abord, c'est le volume le plus important pour lequel nous avons pu définir une origine très précise. Mais on considère qu'en réalité, une proportion sans doute plus grande proviennent des mêmes stocks. Nous avons une méthodologie, encore une fois, très précise lorsqu'il s'agit de l'attribution.
ce qu'il faut retenir, c'est que ces 20% sont encore une fois le volume le plus important pour lequel nous avons une origine déterminée. La raison pour laquelle nous pensons que ces groupes djihadistes s'appuient sur des captures sur le champ de bataille, c'est tout simplement parce que cela permet à ces groupes non seulement de récupérer du matériel, mais en plus de ça, en même temps, de pouvoir un petit peu avancer leur pion sur cet échiquier et donc de faire de la propagande, de prendre du terrain et donc évidemment de faire de la compétition aux acteurs étatiques.
Donc ce sont des armes qui ont été pillées aux armées nationales. Si on résume le résultat principal de cette enquête, des armes qui sont pour le coup, et je vous demanderai de nous dire deux, trois mots là-dessus, Léo Jarry, assez vieilles finalement, voire même très vieilles.
Oui, il y a des armes assez anciennes. Ces armes sont bien sûr extrêmement résilientes, résistantes, donc elles peuvent survivre pendant des décennies à des conditions d'utilisation assez dégradées. Ce que l'on observe, et c'est l'objet du premier rapport de cette série qui est sortie en fin d'année, c'est que les munitions, elles, sont beaucoup plus récentes, puisque vous avez une utilisation unique de ces munitions-là. Donc, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est de l'ordre du consommable, et donc qui doit être renouvelé en règle générale, est bien sûr beaucoup plus récent que des armes qui, elles, peuvent survivre beaucoup plus longtemps dans des environnements comme celui-ci.
Merci infiniment, Léo Jarry, enquêteur principal à l'ONG Conflict Armament Research. Et je renvoie les auditeurs qui s'intéressent à ce sujet, évidemment, à votre étude consultable sur Internet. Crabruno, tout s'est bien passé ?
Très bien.
Bonne journée alors à San Pedro. Merci. 100% de bonne réponse, c'est très bien. Il est 10h26 à Paris, il nous reste 4 minutes. On a le temps de prendre un dernier auditeur ce matin. Payanfou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
À N'Djamena au Tchad, nous vous écoutons.
Oui Juan, Donald Trump a annoncé vouloir recouvrir la prison d'Alcatraz.
D'Alcatraz, oui.
Je ne comprends pas, la prison a été fermée parce que son... l'entretien était coûteux.
Oui.
Alors, j'ai deux questions, Juan. Comment Donald Trump justifie cette décision ? Sa réouverture serait-elle vraiment utile ?
Ah ouais, c'est vrai que ça a supprimé un peu tout le monde. Hein. Donald Trump a dit avoir ordonné la réouverture de ce centre pénitentiaire, certes mythique. Bonjour, Françoise Coste.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Historienne et professeure d'études américaines à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, pourquoi Donald Trump peut-il rouvrir cette prison qui est certes la plus connue au monde, mais enfin qui, effectivement, comme le rappelait notre auditeur, a été fermée il y a plus de 60 ans parce que le fonctionnement coûtait trop cher?
Alors, la petite histoire dit que la vraie raison pour laquelle il a proposé ça, c'est qu'il était en Floride le week-end dernier et que vendredi soir, à la télé en Floride, il y avait le film Le prisonnier d'Alcatraz, ou L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood. Et 2 heures après la fin du film, il a tweeté qu'il fallait rouvrir la prison.
Ça, donc, c'est ça, la petite histoire. C'est ce qui se dit aux États-Unis.
Oui, oui. Parce que ça fait tellement lubie qu'il faut essayer de trouver une raison, quoi. Et la raison officielle, c'est que on est toujours dans cette politique d'expulsion des immigrés clandestins, de lutte contre la criminalité. Donc l'option A, le début du mandat, c'était d'envoyer, comme on l'a vu, des immigrés, des clandestins, des gens qui sont soupçonnés, mais sans aucune preuve, d'être membres de gangs ou de cartels dans la prison de super sécurité au Salvador. Mmh. Ça a quand même créé beaucoup de problèmes parce que le Congrès n'a pas donné son autorisation, c'est cher, il n'y a eu aucune... juridiquement, ça n'a pas du tout été encadré. Donc peut-être que Trump essaye de chercher des super prisons sur le sol américain, d'où l'idée d'Alcatraz.
Oui, enfin, tout est à refaire. Alcatraz, c'est quasiment une ruine aujourd'hui.
Mais c'est une ruine. C'est pour ça d'ailleurs que ça avait déjà il y a 60 ans quand ça a fermé. Ça a fermé parce qu'il y avait plus, je crois, qu'un seul prisonnier à la fin. Elle tombait en ruine. Elle n'était pas du tout aux normes. Donc ça aurait été une telle dépense.
Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de système d'égout.
Voilà. Et donc aujourd'hui, en plus, c'est un musée. C'est un monument historique qu'on peut visiter. Donc elle est encore moins aux normes qu'il y a 60 ans. Donc là aussi, juridiquement, c'est pour ça que je dis que c'est une lubie, une idée qui lui a traversé la tête. Il n'y a aucune étude de faisabilité dans cette proposition.
Bon, on verra si il y aura un rétropédalage, comme souvent avec Donald Trump, dans les prochaines heures ou les prochains jours. Payanfou, a-t-on répondu à votre question ?
Très bien, monsieur.
Bah, merci à Françoise Coste, historienne et professeure d'études américaines à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. D'autres questions pour mieux comprendre l'actualité demain, dès 8h10, temps universel. Et d'ici là, vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux et l'équipe vous recontacte le plus vite possible. Dans 10 minutes, vous nous direz à quoi ressemblera le nouveau pontificat. Quel doit être le profil idéal du prochain pape? RFI vous